En matière d'orgasme, les femmes semblent mieux se débrouiller toutes seules et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 80% jouissent souvent ou toujours contre 30 à 40% dans le sexe à deux. Et dans le monde entier, après des années focalisées sur le plaisir masculin, des laboratoires étudient enfin, explorent le fonctionnement de la sexualité féminine. Les articles scientifiques publiés sur la question sont de plus en plus nombreux et la sexologie apporte sans cesse de nouvelles connaissances sur le plaisir féminin. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. Avec vos questions dès maintenant sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque, je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, un site anti-IVG plus fort que le site du ministère de la Santé sur le web. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui c'est la polémique du moment. Comment ce site dissuasif s'est-il fait une place en tête des résultats dans Google et comment combattre la désinformation sur le web? On pose la question à nos invités pour la une dans un instant.
Stéphanie Texier est aux commandes de La Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le plaisir féminin dans le dossier, donc, dans quelques minutes. Pour en parler, mes invités, la journaliste scientifique et romancière Elisa Brune, bonjour.
Bonjour.
Et la gynécologue et obstétricienne Odile Buisson, bonjour à vous.
Bonjour.
Elisa Brune, est-ce que nous en sommes encore au Moyen-Âge en France sur la connaissance de la sexualité féminine?
Non, heureusement, on commence à en sortir. Mm-hmm. Je pense qu'on a fait des progrès majeurs et significatifs depuis la fin du siècle dernier, mais que les mentalités avancent beaucoup plus lentement que les progrès objectifs des connaissances. Donc il y a du travail.
Odile Buisson, vous avez réalisé en 2009 la première échographie du clitoris et du coïde. Vous avez transgressé un grand tabou à l'époque. Est-ce que les choses évoluent un peu dans ce domaine du plaisir féminin?
En matière d'enseignement, non, pas tellement. Et on aimerait faire plus et davantage, mais la France est dépourvue de laboratoires de médecine sexuelle. Ouais. Par exemple, les Européens ou les Américains.
Il n'y en a absolument aucun?
Non. Spécifique, hein, ouais. Multidisciplinaire, parce qu'en fait, la sexualité féminine est multidisciplinaire. Mmh. Et on manque cruellement de ce genre de structure.
Mais comment on l'explique alors?
Eh bien, c'est le tabou. L'université...
Il n'y a que ça?
Il y a le tabou, mais c'est très dangereux, vous savez, pour un médecin de s'occuper de médecine sexuelle. J'ai eu moi-même quelques déboires, judiciaires d'un confrère qui estimait que j'avais gravement nui à l'image de mon cabinet.
C'est ça.
Donc, c'est malheureux.
Qui fait le même métier que vous, quand même.
Le même métier, oui, mais c'est mal vu. C'est très mal vu parce que c'est compris comme étant de la gaudriole ou de la fausse science.
Allez, on se retrouve dans un instant parce que justement, il y a beaucoup de choses scientifiques à dire sur la question avec les témoignages des auditrices et des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Comment bien informer les femmes autour de l'IVG? C'est aujourd'hui à la une de la science.
Nous avons conçu cette campagne pour dire aux femmes qu'elles peuvent décider librement de ce qu'elles font de leur corps. Et il est important de le rappeler, de le réaffirmer. Pas de jugement, pas de pression, pas de désinformation.
Voilà la campagne de communication lancée par le ministère le 7 janvier par Marisol Touraine, qui est aujourd'hui complètement occultée par une polémique venue du web. Marisol Touraine qui d'ailleurs demain vendredi va présenter son bilan du programme national d'action pour l'accès à l'IVG un an après son lancement. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, un site visant à dissuader les femmes d'avoir recours à l'avortement s'est fait une place en tête des résultats sur Google avec le mot-clé IVG. Alors comment l'expliquer? Comment lutter contre cette forme de désinformation? Olivier Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par téléphone, vous êtes consultant en référencement pour le site Abondance. Et puis Dominique Dupanier est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour Olivier Andrieux.
Médecin et animateur du forum médical atout.org. Olivier Andrieux, comment expliquer cette déconvenue catastrophique pour le site gouvernemental ivg.gouv?
Alors en fait, il faut expliquer ce qui se passe un petit peu. Hein. C'est quand on tape le mot-clé IVG sur Google, il y a le site officiel du gouvernement qui est en cinquième position à peu près. Et le site qui est en premier, c'est un site qui est anti-avortement. Alors pourquoi, hein, pourquoi ça se passe comme ça? Ben en fait, c'est tout simplement que, malheureusement, le site gouvernemental n'a pas été conçu pour être réactif par rapport aux critères de Google, critères qui font que Google classe ses résultats en fonction de 200 critères et malheureusement, il y a priori, à ce qu'on en a pu voir, il n'y a pas eu de travail réellement effectué pour que ce site soit bien classé sur Google.
Est-ce que ça veut dire que d'un point de vue algorithmique, le site dissuasif est plus pertinent que le site du gouvernement ?
Oui, tout à fait, il est plus performant, ça se voit assez vite en auditant même rapidement les deux sites. En fait, Google utilise trois grandes familles de critères, hein, sans rentrer dans la technique, mais bon, il y a des critères techniques, la façon dont le site est fait. Il y a le texte, ce que l'internaute va lire et que Google va lire aussi. Et il y a les liens qui pointent vers le site. Un lien est un vote pour Google. Plus on a de votes, plus on est populaire et donc mieux on est classé. Et en fait, quand on regarde un petit peu le site du gouvernement, ben, techniquement, il y a beaucoup de choses à revoir. Au niveau du texte, la richesse sémantique, c'est-à-dire la richesse du texte, hein, tout simplement, est assez faible. Et en fait, il n'y a quasiment aucun lien, et notamment aucun lien depuis d'autres sites gouvernementaux, ce qui est quand même dommage, parce que justement, c'est plus la popularité, la force des liens et des sites qui fait des liens vers vous qui est importante. Donc avoir un lien depuis un blog inconnu, ça ne sert pas à grand-chose, mais avoir un lien depuis un site gouvernemental, ça par contre, ce serait très bien, et malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de travail qui a été fait à ce niveau-là.
Dominique Dupagne, alors qu'est-ce qu'on trouve exactement sur le site dissuasif, là, pour le coup ?
Sur le site dissuasif lui-même, ouais. On trouve ce que les femmes cherchent, c'est-à-dire des témoignages, des choses qui ressemblent à de l'information objective et qui en fait n'en est pas, et tout concourt à diriger ces femmes vers un numéro vert où elles vont être prises en main au téléphone et quand même sans doute dissuadées de faire un avortement. Donc lui, il est étudié pour, il est fait exactement comme on doit être fait pour avoir de l'audience.
Donc eux, ils ont des pros.
Ils ont des pros, c'est-à-dire qu'ils ont confié la réalisation de leur site à des gens qui connaissent Internet, alors que l'administration, comme on va le voir, en est encore à éditer des brochures. Et donc, plutôt que de faire une brochure, eh bien, ils font un site brochure où l'administration parle d'elle au lieu de répondre aux questions des gens.
Ça, c'est l'aspect technique, mais est-ce que d'un point de vue du message, il n'y a pas un problème aussi sur le site gouvernemental ?
Bah oui, parce qu'en fait, quand on est une femme qui est concernée par une grossesse non désirée, on tape un mot, on va sur un site, et la première chose qu'on regarde sur la page d'accueil, c'est des adresses, des témoignages, où aller. Et en fait, quand vous arrivez sur le site gouvernemental, vous avez d'abord le nombril de l'administration, si je puis dire, c'est-à-dire notre campagne, on est très fiers de notre campagne. Ensuite, en dessous, on a le making-of de la campagne. Et ensuite, on a une carte de France, on dit « Ah, c'est parfait, je vais cliquer pour savoir où ça se passe ». Et quand vous cliquez sur une région, vous arrivez sur une page où il n'y a aucune adresse, aucun téléphone.
Erreur.
Et il faut deviner qu'il faut cliquer sur un titre qui n'est même pas souligné pour aller encore une étape supérieure, avoir des renseignements. Donc si vous voulez, c'est un site qui a été fait mais par des gens qui ont une naïveté vis-à-vis d'Internet qui est confondante.
Odile Buisson.
Moi je pense qu'il ne faut pas compter sur l'administration pour faire de la santé. Or, c'est tout ça.
Même de la part du ministère de la Santé.
Même de la part du ministère de la Santé, car le ministère de la Santé, il y a 2 ans, nous a fait un pill scare, nous a fait une panique à la pilule, et depuis, nous pouvons constater dans certaines régions une augmentation du taux d'IVG de 5%. Car les jeunes filles maintenant ont peur de prendre une pilule parce que ça donne le cancer, parce que ça peut donner une embolie pulmonaire, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas revenu de ce pill scare d'il y a 2 ans, et je dois dire que, moi je sais pas, je serais ministre, j'irais pleurer dans ma couette. D'obtenir un tel résultat.
Et là aussi, Marisol Touraine a encore tenté de sauver la situation avec un tweet invitant les internautes à aller cliquer et à visiter le site ivg.gouv.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Est-ce que c'était la bonne solution, Olivier Andrieux ?
Ah bah non, c'est dommage. C'était bien tenté, mais non, non. En fait, le fait de cliquer sur les liens et de créer du trafic sur le site, alors on peut pas dire que c'est totalement que c'est totalement inutile, mais enfin, c'est un critère très très faible pour Google, donc ça va. Enfin, ça va quasiment rien donner comme résultat. Donc c'est un petit peu dommage parce que non seulement le site, il est pas réactif, il est mal classé, il est mal fait, mais en plus, quand on dit de faire quelque chose, ça sert à rien. Donc c'est un petit peu dommage.
Dominique Dupagne.
Parce qu'il faut bien comprendre que le succès de Google, ça a été lié au fait que c'est un site qui est difficile à manipuler, contrairement aux anciens moteurs de recherche. Moi, j'ai appris le référencement auprès d'Olivier Andrieux il y a 10 ans, si vous voulez. On pouvait encore, avec AltaVista, pour les vieux qui se souviennent des vieux systèmes, mettre des mots-clés en exergue, faire en sorte... Mais avec Google, comme l'algorithme est secret, en fait, et comme le disent maintenant les référenceurs, avant tout, il faut faire un contenu pertinent, original, intéressant. C'est le meilleur moyen d'être référencé. On peut adapter après, mais si vous voulez, c'est un petit peu à la marge. Et donc, on est face à des gens, encore une fois, qui n'ont pas compris comment ça fonctionne.
Et Google accorde des points bonus, d'ailleurs, aux sites gouvernementaux, en .gouv, pour le référencement. Ça ne suffit pas. Il faudrait que Google aille plus loin, Dominique Dupagne, pour faire remonter ce site, par exemple.
Moi, je suis totalement opposé à l'absence de neutralité vis-à-vis du web. Google a des algorithmes qui classent l'information avec des choses qui sont extrêmement pertinentes. On sort, avant Internet, d'un système d'autorité où certains décidaient de ce qui devait être porté à la connaissance du public. On n'est plus dans ce système-là. Maintenant, c'est une espèce de vote, comme l'a dit Olivier Andrieux. Ce sont les gens qui votent en faisant des liens vers une information information et qui la rendent finalement pertinente. Moi, je suis totalement favorable à cette situation. Simplement, il y a une concurrence. Or, l'administration n'est pas habituée à être en concurrence pour l'information. Elle a l'habitude d'informer et d'espérer que tout le monde reproduise ce qu'elle dit sans avoir à justifier.
Olivier Andrieux, donc les agences gouvernementales sont passées complètement à côté du tournant numérique de la communication, selon vous ?
En tout cas, sur cet exemple-là, je pense qu'on peut le dire clairement. Puis bon, je veux dire, je trahis pas un secret. Oui, je pense pas que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est pas vraiment très bien fait. Je voulais reprendre un exemple d'ailleurs sur le site de l'IVG du gouvernement. Google il aime les pages qui ont une richesse sémantique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des synonymes, lorsqu'il y a des termes proches, etc. Des pages riches en termes de texte. Et sur la page d'accueil du site qui parle de l'IVG, on n'a nulle part le mot avortement. Alors qu'on pourrait quand même penser que ce sont des termes très proches. Bah, le mot avortement n'est jamais présent dans la page. Donc c'est typiquement voilà, le type d'erreur qu'il ne faut pas commettre en référencement et en visibilité sur Google, parce qu'on passe complètement à côté. Et tout ce travail-là, toute cette visibilité, elle aurait été acquise si ce travail avait été fait en amont, c'est-à-dire lors de la création du site. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et c'est souvent assez souvent le cas sur les sites gouvernementaux, oui.
Allez, pour conclure,
oui, et donc,
Dominique.
En résumé, si vous voulez, c'est pas un problème de manipulation de Google. Le site gouvernemental est mal classé parce qu'il est nul.
Voilà, et c'est la conclusion. C'est la conclusion de votre article sur atout.org. Merci beaucoup pour ces explications, Olivier Andrieux. Et puis donc, on rappelle que demain, Marisol Touraine, à 9h30, fera le bilan de son programme national d'action pour l'accès à l'IVG un an après son lancement. Elle aura peut-être des choses à dire après le suivi, justement, de sa communication sur Internet. Merci beaucoup Dominique et à demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un Pompéi à l'âge de bronze découvert en Angleterre. Des archéologues britanniques ont mis la main sur les vestiges d'un village entier dans le comté de Cambridgeshire, exceptionnellement bien préservé grâce au limon et la vase du sol. Comme à Pompéi, ce site baptisé Must Farm a été détruit par une catastrophe il y a 3000 ans. Après un incendie, les maisons construites sur pilotis se seraient effondrées avant de disparaître sous les eaux de la rivière. Découverte qui révèle la manière dont vivaient ces peuplades à l'époque. En attendant les analyses et les publications, vous pouvez dès à présent découvrir les photos de ces fouilles mises en ligne en temps réel par l'équipe de Must Farm. Un lien est disponible sur le Facebook de l'émission. De l'eau sous forme de glace découverte à la surface de la comète Chury. Si nous savions déjà que la chevelure de la comète comprenait des molécules d'eau et que son noyau était pour moitié constitué de glace, nous avions jusqu'à présent eu du mal à détecter des traces de glace d'eau à sa surface. C'est désormais chose faite grâce à la sonde européenne Rosetta. Elle vient de mettre la main sur deux zones glacées de tailles différentes situées sur la partie inférieure de son lobe principal. Une découverte majeure pour comprendre comment la structure et l'évolution de ces corps célestes glacés fonctionnent. Et puis on finit par cette photo incroyable, celle d'un puma avec des dents et des moustaches sur le front dans l'état américain de l'Idaho. Des chasseurs ont abattu légalement ce puma après qu'il ait attaqué un chien en décembre dernier. Ils ont partagé ce cliché. Des chercheurs travaillent actuellement pour percer le mystère de cette impressionnante malformation. Trois hypothèses sont à ce jour étudiées. Il pourrait s'agir d'une tumeur qui entraînerait une excroissance de tissu ou bien d'une blessure mal guérie aux dents du cougar. La photo du puma est à retrouver sur nos réseaux sociaux. Âmes sensibles s'abstenir. Et le plaisir féminin, c'est dans un instant le dossier de la tête au carré. Yeah. The Less I Know The Better avec Tame Impala.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
L'étude du plaisir féminin connaît un nouvel essor depuis quelques années avec des découvertes scientifiques majeures, une meilleure connaissance de la sexualité féminine, et c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré pour explorer cette science, donc de la sexologie, les publications les plus récentes dans ce domaine. Pour en parler, mes invités, Elisa Brune, vous êtes romancière, essayiste, journaliste scientifique, et j'aimerais préciser belge, parce que ça sent quand même dans votre écriture, dans votre façon d'aborder avec humour, sans être graveleuse pour autant, mais avec une façon très originale en tout cas d'aborder la question de la sexualité. Vous publiez Labo Sexo, bonne nouvelle du plaisir féminin chez Odile Jacob. Et puis Odile Buisson, vous êtes gynécologue obstétricienne, vous avez publié en 2011 Qui a peur du point G. Les questions, les témoignages des auditeurs arrivent donc sur le site franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Elisa Brune, donc Labo Sexo, bonne nouvelle du plaisir féminin, c'est une enquête que vous avez menée qui fait état des connaissances de ces 15 dernières années sur le plaisir féminin. Comment vous avez procédé pour vous immerger dans les coulisses de la sexualité féminine?
C'est une entreprise de longue haleine que j'ai commencé en 2010. Mmh. Ceci est la troisième étape qui constitue une synthèse globale de toutes les recherches, rencontres, interviews, etc. Et une mise à jour avec les découvertes les plus récentes. Ouais. Donc c'est presque la scientifique moelle de tout mon travail. J'avais fait au tout départ un questionnaire par internet pour recueillir des témoignages du vécu des femmes sur l'orgasme propre dit. Et je crois que ça a été un peu une première dans le domaine parce que l'orgasme avait été était resté sur la touche, je dirais, par rapport à tout ce qui a été dit sur la sexualité. C'était le point secret difficile à verbaliser. Ouais. Et heureusement, depuis lors, les choses ont bien changé. C'est devenu quelque chose dont on peut parler, qui est légitime, qui est même de plus en plus documenté. Et donc là, maintenant, avec cette partie enquête, plus la partie concernant tous les scientifiques et les professionnels du domaine mm-hmm. que j'ai rencontrés, dont Odile Buisson, que j'ai rencontré bien sûr dans cette enquête, qui en est une actrice importante. J'ai fait la synthèse de tout ce qu'il faut retenir pour, je dirais, le grand public, parce ouais. que j'ai fait des ouvrages plus costauds, plus documentés, mais qui servent en fait essentiellement aux professionnels, ouais. qui sont plus... qui sont très très documentés. Alors ici, on a la version que je dirais tout honnête homme ou tout honnête femme devrait connaître ouais. Vraiment.
Avec beaucoup de témoignages, enfin en tout cas des connaissances acquises sur le plaisir féminin par l'expérience des femmes elles-mêmes. Il n'y avait pas que les scientifiques évidemment au cœur de ce
non,
travail.
Non, bien sûr, il faut à la fois étudier la chose et il faut à la fois savoir comment la chose est vécue. Donc ce sont les deux sources d'information.
Odile Buisson, la sexualité féminine, c'est encore terra incognita pour l'instant?
Depuis 10 ans, on a fait des progrès, comme le soulignait Elisa, mais c'est pas, on n'est pas autant avancé qu'on le devrait. Parce qu'en fait, sur le plan recherche, c'est étudier quoi? C'est le cerveau, des vaisseaux, des nerfs, des neurotransmetteurs. Ça n'est pas inaccessible pour la recherche médicale, mais il se trouve que il y a un certain tabou quand même qui existe encore. C'est assez mal vu, c'est sujet de moquerie, de dénigrement, et c'est complètement dommage parce que la fonction sexuelle est une fonction comme une autre. Il faut considérer quand on est médecin la fonction sexuelle comme une fonction articulaire, comme ouais. une fonction cardiaque.
Ce tabou, il est aussi du côté des femmes dans votre profession?
Oui, il est aussi au côté des femmes parce que on est, il y a une chape quand même. L'homo sapiens occidental, il a quand même été complètement massacré sur le plan de la sexualité. Il y a eu le monothéisme. De toute façon, la France est la fille aînée de l'Église et ça l'est probablement toujours dans les inconscients. Et en fait, la culture française, même si elle est très démonstrative sur le plan sexuel, on dit bon, c'est le pays de l'amour, de la courtisanerie. Quand on parle de la réalité du sexe, les gens sont très frileux, très très ouais. frileux. Et les médecins d'abord aussi, parce ouais. qu'ils ont peur d'aborder ça.
Moins de frilosité en Belgique ou pas, Elisa Brune?
Oui, globalement, oui. Et pour ce qui me concerne, j'ai évidemment été à la rencontre des acteurs qui n'ont pas froid aux yeux, qui abordent les choses frontalement. Mais ça a été beaucoup aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Belgique, et peut-être moins en France, où c'est rare de trouver des gens comme Odile Buisson qui, qui prennent la chose à cœur.
Parlons d'un organe étonnant, le clitoris, Odile Buisson, organe du plaisir, seul organe humain dévolu au plaisir, justement, et qui n'a pas d'autres fonctions, en tout cas pas de fonctions utilitaires, à part celle-là, qui est quand même pas négligeable.
Oui, le clitoris, ça sert au plaisir. Et en fait, c'est le clitoris, maintenant, on peut pas parler de clitoris seul. C'est le clitoris, on parle de complexe clitoridien. C'est-à-dire qu'il faut insérer dans cette notion d'organe de plaisir le tiers inférieur du vagin. Le tiers inférieur du vagin est très est intriqué avec les racines internes du clitoris et avec l'urètre. Et c'est la gâchette principale. Mais comme nous, notre sexualité multifactorielle, Elisa l'a très bien décrit dans son livre, on a évidemment le clitoris, c'est une des gâchettes, mais ça n'est pas la seule.
Extrait d'un documentaire produit en 2003, Le clitoris, ce cher inconnu.
Le docteur O'Connell a montré que le clitoris est bien plus grand qu'on ne l'avait imaginé. Il mesure en moyenne près de 8 cm et constitue un organe plus complexe qu'on ne le pense. Il existe deux bulbes de tissu érectile qui descendent le long de la vulve et qui sont connus par les spécialistes comme les bulbes du vestibule. Hélène O'Connell a découvert qu'ils ne constituaient pas des organes distincts du clitoris, mais qu'ils en faisaient bel et bien partie. Eux aussi se gonflent lors de l'afflux de sang, créant ainsi une zone particulièrement érogène autour de l'urètre et du vagin.
Elisa Brune, vous écrivez que l'histoire de la connaissance du clitoris est la plus erratique de toute l'anatomie humaine. Pourquoi exactement?
Je crois que c'est le seul organe connu qui a disparu aussi souvent dans l'histoire de la médecine. C'est vraiment un lutin.
C'est vrai. Et ça s'est imposé pour de bon, donc assez récemment.
Oui, on espère que c'est une fois pour toutes.
Mais oui, c'est ça, à la fin du XXe siècle quand même.
Oui.
Donc ça devrait tenir bon maintenant.
Donc c'est Hélène O'Connell, cette urologue australienne, qui a établi l'anatomie interne complète du clitoris.
C'est 98.
Ah,
c'est ça. Donc c'est plutôt récent.
C'est incroyable. Donc depuis lors, ça fait référence. Et alors, il a été abordé d'autres manières, notamment par Odile et deux autres gynécologues qui ont établi l'échographie d'abord statique et puis dynamique de cet organe lors de l'excitation et de l'acte sexuel. Et donc, voilà, avec tous ces travaux, on commence à avoir une connaissance de cette entité, à la fois sur le plan anatomique, mais aussi sur le plan fonctionnel, ce qui est une révolution.
Odile Buisson, 2009-2010, donc, vous réalisez les premières échographies du clitoris et même du coït. Personne dans le monde n'avait eu l'idée, avant Madame O'Connell, justement, de le faire?
Si, en 1999, ils avaient fait une résonance magnétique. Mais, donc, la résonance magnétique, vous savez, on met un couple dans un tube, et puis on regarde.
Ça doit pas être facile, d'ailleurs, parce qu'il faut pas bouger, en général, non?
Enfin, ils s'arrangent.
Non, mais c'est vrai. Enfin, le principe de l'imagerie, c'est de pas bouger.
Oui, mais enfin, comme maintenant, il y a eu des améliorations.
À l'époque, c'était un cliché fixe, c'est vrai, ils sont restés immobiles. C'était un cliché de la pénétration, mais arrêt sur image. Quoi. Voilà.
Ouais. Mais ce qui m'intéressait en faisant l'échographie du clitoris, c'est voir comment le clitoris réagissait. Tandis qu'avec la résonance magnétique, quand on voyait une pénétration complète, bon, on a pu voir que la verge s'installait dans le cul-de-sac postérieur du vagin, mais ça ne nous donnait pas d'informations sur les modifications du clitoris, ce que l'échographie a permis.
Et comment vous avez procédé, vous, donc, en l'occurrence, avec un couple de volontaires qui
D'abord, l'échographie, c'était avec des volontaires et avec des pénétrations au doigt ou avec un device. J'avais fabriqué avec une petite pince et puis une compresse.
On veut tout savoir.
Oui, c'est ça. Non, j'avais mis une petite pince, j'avais mis des compresses qu'il faut mouiller parce que sinon les ultrasons passent pas. Et je me suis aperçue que c'était pas évident parce qu'il n'y a pas une bonne compliance entre forcément ce qu'il y avait dans le vagin et puis le clitoris. J'ai même essayé des objets contondants des sextoys, mais ça marchait pas non plus. Donc j'ai fini par conclure qu'il fallait que le pénis était tout à fait requis pour pouvoir faire l'expérience.
Et qu'est-ce que vous avez appris alors?
Eh ben, j'ai appris que lors d'une pénétration et lors des mouvements de va-et-vient dans le vagin, le clitoris est stimulé. C'est-à-dire que généralement, et Elisa le décrit très bien dans son livre, on décrit un orgasme d'origine clitoridien et un orgasme d'origine vaginale sans stimulation concomitante du clitoris. Mais en fait, selon l'échographie, selon nos résultats à nous, quand on stimule la partie antérieure du vagin, on ne peut pas stimuler le vagin sans obligatoirement stimuler le clitoris. Donc, on ne peut plus vraiment dire, il y a une espèce d'ambiguïté quand on dit origine clitoridienne, origine vaginale. Quand
on fait d'abord clitoridien? C'est avant tout et forcément clitoridien.
C'est aussi clitoridien quand on fait une pénétration vaginale. Mais le vagin, il y a quand même une innervation aussi dans le vagin. Le vagin par lui-même peut être excité. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut parler de complexe clitoro-utéro-vaginal et peut-être ne plus dissocier l'orgasme clitoridien pur de l'orgasme vaginal parce que c'est mixte.
Nous savions que nous avions juste 2-3 nuits, hein. Et pendant ces 3 nuits-là, eh bien, j'ai cru la première nuit mourir, hein, mourir par ce désir et cette satisfaction qu'il m'a fait, hein. Eh bien, avoir du plaisir, un orgasme, hein. Et oui, je l'ai eu qu'à cet âge-là, hein. J'avais 46 ans, hein.
Ce premier orgasme, il est venu comment?
Alors, il est venu, en me pénétrant, forcément. C'est comme une pile électrique, comme je dis. Comme si on m'avait piqué les fesses avec une pile. C'est par à coup. Hein, et le cœur bat bizarrement. Hein. C'est comme un miracle. Hein, vous avez comme si que le ventre s'ouvre. C'est beau.
Voilà, et c'est la première fois à 46 ans pour cette femme, extrait de ce documentaire « Pardon, mais c'est trop bon », Odile Buisson.
C'est ce que, de toute façon, c'est tout à fait bien décrit dans le livre d'Elisa. L'orgasme s'apprend. Et même les femmes qui n'ont pas d'orgasme peuvent très bien, sur le tard, en avoir un.
Et Elisa Brune, l'accès à l'orgasme est assez inégal entre les garçons et les filles aussi.
Mais très. En fait, c'est vraiment le point de départ de toute ma démarche, c'est de constater que les femmes n'ont pas un accès automatique ou évident à l'orgasme, alors que chez les garçons, c'est plutôt automatique. Et donc, comme vous l'entendez, les témoignages sont incroyables parfois. Moi, j'en ai entendu des dizaines et des centaines, et donc c'est d'une diversité incroyable. Mm-hmm. Mais ce que toute cette enquête permet, c'est de mettre les choses ensemble et de décrire plutôt un orgasme qui peut prendre différentes formes au lieu de rester dans un clivage artificiel entre deux types d'orgasmes et que l'un serait mieux que l'autre. Tout ça, c'est dépassé. Ce que ça apprend aussi, c'est que c'est évolutif et qu'effectivement, ça peut s'apprendre. Et c'est parce qu'on est mal informé, parce qu'on a fait peu d'expériences différentes et parce qu'on a peu l'esprit d'exploration que parfois on reste bloqué pendant très longtemps dans un statu quo pas très satisfaisant. Et le propos, c'est de se remettre en marche, et parce qu'on est toujours le seul expérimentateur de son plaisir. Hein. C'est pour ça que quand je dis labo sexo, c'est un labo au sens de ça s'expérimente, ça évolue, et donc il faut être un peu curieux. Et des choses très incroyables ou inattendues peuvent surgir à des âges jusqu'à d'ailleurs même 80 ans, j'en ai vu.
Allez, on se retrouve dans un instant. Les témoignages aussi, les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr, juste après la Maison Tellier et Amazon.
N'oublie jamais personne, n'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras. dans la baie. Une lance enflammée, mais où est la beauté? À chaque jour sa peine. Ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie. Blottie au creux des bras. Pour reposer l'Amazon, lécher ses hématomes. Remettre un peu de baume au cœur du cyclone. Caresser du
La Maison Tellier dans la tête au carré, consacrée au plaisir féminin avec Elisa Brune qui publie chez Odile Jacob Labo Sexo, bonne nouvelle du plaisir féminin. Et puis Odile Buisson, gynécologue obstétricienne qui avait publié, c'est en 2011, hein, Odile Buisson je crois, hein, oui. Qui a peur du point G. Alors les questions des auditeurs, Christophe sur Twitter nous dit ceci, est-ce qu'on peut dire que le pénis et le clitoris c'est la même chose puisque lorsque l'embryon devient masculin, le clitoris se transforme en pénis, Elisa Brune?
Oui, c'est tout à fait juste. En tout cas, durant les trois premiers mois de la gestation, c'est le même organe exactement qui apparaît entre les jambes des filles et des garçons. Puis, sous l'effet des hormones, ça diverge. Mais c'est la même chose qui se développe autrement. Je prends parfois l'image d'un canapé-lit. Vous le dépliez, c'est un lit. Vous le repliez, c'est un canapé. Très mais ça reste le même
bonne
objet.
Bonne image.
Donc, bravo, les filles ont le canapé, les garçons le lit. Ce qui permet de bien fixer les choses, c'est-à-dire de faire le contraire de ce qu'on disait. Les garçons ont un sexe entre les jambes, les filles n'ont rien. Non, il faut vraiment se battre contre cette idée de vide. Nous avons la même chose, le même équipement, simplement il est plus ou moins visible.
Larry nous dit ceci, est-ce que l'orgasme est nécessaire pour la fécondation de par les contractions vaginales qu'il provoque ou est-ce que ça n'est qu'un facilitateur, Odile Buisson?
Non, ça c'est une notion qui est très 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 controversée et en fait même qui est complètement niée. Il n'est pas vrai que les contractions de l'orgasme facilitent la fécondation puisque le sperme, une fois qu'il est émis, a besoin d'un certain temps. Les spermatozoïdes vont subir une modification qui s'appelle la capacitation et le fait d'accélérer le sperme au niveau des trompes, justement, diminue la capacité. Enfin, c'est tellement rapide que les spermatozoïdes n'ont pas le temps de réaliser leur de capacité, si vous voulez. Donc, c'est une idée qui a été longuement, enfin, qui a été souvent émise, mais qui maintenant, je crois, complètement battue en brèche.
Françoise nous dit arrêtons de réduire le plaisir féminin à l'orgasme.
Alors, ça, elle a raison. Elle a raison.
Je crois que ça vous fait trop plaisir.
Là, oui. Parce que l'injonction du tout orgasme. De l'orgasme absolument nécessaire, c'est vraiment pas bien. Non, on peut avoir du plaisir rien que dans la séduction, c'est du plaisir, rien que dans le désir, rien que l'excitation est du plaisir. Quand on voit par exemple, y a qu'à prendre les messieurs qui vont dans les clubs de striptease, jamais ils sont excités, ils vont dans les clubs de striptease pour s'exciter sexuellement, pour avoir du plaisir, ils ne concrétisent pas forcément. Donc de la même façon, l'excitation chez une femme est source de plaisir. Les câlins, le fait de se mélanger l'intimité, tout ça participe au plaisir féminin. Mmh. Et il ne faut pas avoir de dictature de l'orgasme, ça serait vraiment dommage, parce que ça vient si ça vient, ça vient pas, c'est très bien aussi.
Elisa Brune.
Oui, et même très génitalement parlant, il ne faut pas non plus miser tout sur l'orgasme. Dans tous ces témoignages que j'ai recueillis, la notion de plaisir est très, très puissante et très intense, y compris pendant la pénétration, sans que ce soit nécessairement un orgasme. Et donc, et parfois, la volonté ou l'essai de finaliser vers l'orgasme peut empêcher de bien profiter des sensations qui sont là et qui sont un véritable plaisir.
Est-ce que c'est bon pour la santé, un orgasme ? On a de la documentation là-dessus, un petit peu ?
Oui, notamment, il y a Stuart Brody, qui est un professeur écossais, qui a beaucoup publié là-dessus. Mmh. Et on sait que l'orgasme, c'est une source de bonne santé physique et psychique. Le tonus cardiovasculaire est meilleur, il y a une musculation qui se fait. On a décrit aussi des tailles plus fines chez les femmes qui ont des capacités orgasmiques, d'orgasme vaginal.
Pour perdre du poids, c'est bien. ça va être le nouvel argument de choc.
Oui, ça consomme beaucoup d'énergie. Et surtout, ça crée une détente et un anti-stress de première qualité. Et puis en plus, ça augmente l'amour, le sentiment amoureux. Mmh. Et l'amour, c'est bien, parce qu'en fait, ça nous permet d'être à deux pour faire face aux adversités de la vie.
Mmh. Elisa Brune, être à deux, c'est bien, mais apparemment, les femmes sont très heureuses lorsqu'elles sont toutes seules aussi. En tout cas, elles manifestent plus de plaisir. C'est effrayant, les chiffres. Hein. C'est pratiquement du simple double. On en prend un coup sur la cafetière quand même, non ?
C'est-à-dire que la performance orgasmique est bien meilleure en solo qu'à deux. Alors, ça ne prouve pas que c'est meilleur tout seul, ça prouve qu'on a une connaissance de soi qu'il est difficile de transmettre à l'autre. Mmh. Raison pour laquelle ça se dégrade quelque part. Mais d'où l'idée qu'il y a du travail à faire là-dessus, c'est-à-dire à rendre les partenaires aussi, eux, bien conscients de comment ça fonctionne, en diffusant de l'information, comme j'essaye de le faire depuis quelques années, et aussi, bien sûr, en communiquant plus facilement sur son désir et sur son plaisir. Mmh. Et c'est là que les femmes ont peut-être encore beaucoup de réticences par rapport à savoir exprimer ce qui leur fait du bien, ce qu'elles souhaitent. C'est très important.
Alors, il y a une femme aux États-Unis qui a fait beaucoup de bruit, c'est Annie Sprinkle, qui a incité les femmes à découvrir tous les types d'orgasmes dont elles sont capables, parce qu'elle en propose 7, c'est ça ?
Oui. Alors là, bon, il faut choisir son camp. Ou bien on fait un événement orgasmique et on dit qu'il est multiforme, ou bien, comme Annie Sprinkle ou d'autres, on fait une
dans
typologie.
Dans la dentelle. Hein, oui. Et là, on fait une... voilà, c'est ça.
Et elle a choisi de typologiser en 7 catégories qu'elle
invite dire que la, à découvrir. La dame a de l'expérience. Hein.
Elle a un passé particulier. Voilà. Puisque avant d'être, sexologue autoproclamée, elle était star du X.
Voilà.
Et donc, elle a eu 3500 partenaires et elle se connaît très bien, dit-elle. Ouais. Et elle fait depuis lors de l'éducation sexuelle extrêmement
c'est une bonne cohorte, hein, déjà, hein, 3500 personnes pour étudier la question.
Donc, elle invite à se découvrir, à pratiquer toutes sortes de choses, mais surtout donc à expérimenter les sensations à divers niveaux, à divers endroits, à diverses circonstances. Et pour moi, ça ne peut être que bénéfique, puisque ça va dans le sens d'explorer le possible et de faire usage de sa liberté. S'il y a une chose qu'on peut faire en sexualité, c'est bien se donner cette liberté.
Oui. La classification des orgasmes, Odile Buisson, c'est extraordinaire.
Oui, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais bon, pourquoi pas.
Allez, on se retrouve dans un instant, fin de notre dossier avec toujours les messages des auditeurs.
L'habitude nous joue des tours, nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer. Dès que séchera la rosée, regarde la rouille posée sur la médaille et son revers. Elle teinte bien les feuilles d'automne. Elle vient à bout des fusils cachés. Elle rongerait les grilles oubliées. Dans les prisons, s'il n'y venait personne. Moi, je la vois comme une plaie utile, marquant le temps d'ocre jaune et de roux. La rouille aurait un charme fou. Si elle ne s'attaquait qu'aux grilles. Avec le temps, tout se dénoue. Que s'est-il passé entre nous? De petit jour en petit jour. À la première larme séchée, la rouille s'était déposée sur nous et sur nos mots d'amour. Si les fusils s'inventent des guerres et si les feuilles attendent le printemps, ne luttons pas comme contre le temps. Contre la rouille, il n'y a rien à faire. Moi je la vois comme une déchirure, une blessure qui ne guérira pas. Notre histoire va s'arrêter là. Ce fut une belle aventure. Nous ne nous verrons plus, et puis, mais ne crois pas ce que je dis, tu sais, je ne suis pas en fer. Dès que séchera la rosée, la rouille se sera posée sur ma musique et sur mes vers.
La rouille, Maxime Le Forestier. N'y voyez aucune malice de notre programmateur Thierry Dupin avec notre dossier aujourd'hui, Le plaisir féminin, Labo Sexo, Elisa Brune aux éditions Odile Jacob. Et Odile Buisson avec Qui a peur du point G, ça c'était en 2011. Mais justement, votre sujet de prédilection qui fait aussi l'objet de stages, figurez-vous. Dans le sud de la France, par exemple, on peut apprendre à essayer de localiser son point G, extrait d'un documentaire, pardon, mais c'est trop bon.
Le point G, il est situé exactement comme c'est sur la planche là. Entrez votre doigt à l'intérieur de vous, là, en crochet, juste pour toucher l'os pubien. Ouais. D'accord ? Eh bien, là, il y a une boule. Est-ce que vous la sentez ?
Moi, je sens l'os.
Et tu ne trouves pas de boule ? Cherche. Est-ce que tu le trouves ? En réalité, c'est très près de l'entrée du vagin.
C'est bizarre, hein ? C'est... Oh là là ! Oh là là, c'est caverneux là-dedans.
Ah ! Morgane, toi, tu l'as localisé, le point G ? À combien de centimètres il est à peu près de l'entrée de ton vagin ? Un centimètre et demi. Kiki, à combien de centimètres ? Est-ce que tu le sens là maintenant ?
Non, je n'ai aucune idée.
Tu sens rien ?
Bah, je sens que je ne sais pas si c'est ça.
D'accord. Katia ?
Moi, il est vachement près aussi, oui, c'est ça.
Tout près de l'entrée du vagin, oui. Est-ce que tu l'as senti, Juliette ?
Non, pas du tout.
Tu vas trop loin. Alors, viens plus de ce que moi j'appelle devant, c'est-à-dire ramène vers le clitoris.
Mm-hmm. J'ai senti une grosse boule au fond.
Oui, ça c'est l'utérus.
C'est l'utérus.
Voilà, et maintenant, beaucoup plus devant. Ça prend pas toujours l'aspect d'une grosse pastille, hein. C'est granuleux.
Odile Buisson, un petit commentaire, s'il vous plaît, entre deux rires. Ça vous a beaucoup amusé, quand même, ce qu'on vient d'entendre.
Mais le
qu'est-ce
point
qui vous amuse ?
C'est de dire au fond du couloir à droite. Non, c'est... Non, c'est pas comme ça. Non, le point G, il n'y a pas de structure anatomique qui correspond au point G. Et il faut noter qu'il y a une très grande variabilité des organes génitaux féminins d'une femme à l'autre. Ça, il y a une très grande diversité. Donc, on ne peut pas dire le point G, c'est ci, c'est ça. En fait, moi, selon les échographies que j'ai pu faire, ce que j'avais pensé être le point G, c'est le point de contact entre le clitoris interne et la paroi antérieure du vagin. Et ça peut être tout à fait différent d'une femme à l'autre, parce que tout dépend de l'aspect du clitoris et de la forme du clitoris.
Et vous parlez de la zone G,
oui, d'ailleurs. La zone G, parce qu'il n'y a pas de
comme
structure.
Comme ça, c'est moins précis que voilà, ce point G qui serait localisé.
Oui, ça, c'était notre hypothèse. Au docteur Foldès et à moi, quand on a fait les échographies, c'était. Mais bon.
Ouais.
Ça reste encore à démontrer.
Elisa Brune, hein, le point G existe et il n'existe pas. Hein, question toujours très débattue.
Mais oui, enfin non, ça commence à devenir de plus en plus clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe, il n'y a pas de structure anatomique. Mm-hmm. En revanche, il y a une sensibilité affirmée chez certaines femmes et pas chez d'autres. Mais elle s'exprime dans un fonctionnement et pas de manière comme ça, en dehors de tout. Donc, c'est plutôt à l'usage qu'on se rend compte ou qu'on découvre qu'on a une sensibilité qu'on peut appeler point G. Mais, de nouveau, il ne faut pas tout focaliser et chercher à tout prix en oubliant à la fois le ressenti et la diversité possible. Donc, ce type de stage peut être très utile pour se connaître et ne fût-ce que oser aller voir à l'intérieur. Oui. Comme vous avez entendu, il y a des gens qui ont une prévention, qui parlent de cavernes et de grottes. Et ça, c'est dommage. C'est un des obstacles à l'épanouissement de la sexualité féminine. Mm-hmm. C'est le dégoût ou l'aversion qu'on peut avoir de son propre corps, qui a été installé par des siècles de conditionnement, et qu'il faut déployer beaucoup d'énergie pour combattre et renverser.
Justement, Zupa nous dit, taper sur les monothéistes pour dire que le plaisir féminin est tabou, ça va bien à un moment. C'est Freud et Ménie Grégoire qui ont mis à l'index le plaisir clitoridien, à savoir la psychanalyse.
Oui et non. Parce qu'on ne peut pas accuser Freud de pas avoir... Le clitoris a été découvert en 1998. Hein. On ne peut pas accuser Freud d'avoir été un homme de son temps et d'avoir tout mis sur la psyché et sur l'idée que les femmes n'avaient rien entre les cuisses. Hein. Mais c'est vrai que l'école psychanalytique a peut-être... vu qu'elle était quand même très importante et puis très 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 puissante, a peut-être mis un petit peu de côté l'étude du corps. Et en fait, la psyché ne se différencie pas du corps. C'est le cerveau, c'est qu'un appendice du corps. C'est mal vu de dire ça, hein, mais c'est vrai. Le cerveau, c'est du corps pensant et le corps, c'est du cerveau pensant. On ne peut pas parler de l'un et de l'autre. Et c'est vrai que la psychanalyse, en étant très analytique de la psyché, a peut-être complexé la science et les scientifiques de cet organisme dont ils voulaient se détourner.
Charlotte nous dit sur Facebook, j'ai des orgasmes en retard, des orgasmes très puissants alors que la pénétration est terminée. Comment expliquer ce phénomène ?
Je ne sais pas. D'abord, je ne peux pas dire comme ça. Il faut savoir pourquoi, il faut l'examiner.
Vous aviez déjà entendu parler de ce type de cas ?
Oui, bien sûr, ça peut tout à fait être retardé. Mais la cause, on ne sait même pas ce que c'est que l'orgasme vraiment. Donc je crois que je ne peux pas répondre.
Hein. Elisa Brune, vous parlez des dysfonctionnements sexuels en affirmant que le clitoris, par exemple, peut débloquer grave des pathologies sexuelles découvertes. Par exemple, il y en a une en 2001, c'est le syndrome d'excitation génitale. Permanente. Waouh. Ça doit fatiguer au bout d'un moment, non ?
Ah, c'est terrible, c'est un vrai calvaire pour les femmes qui en sont victimes. Ça fait partie des nombreuses choses qui ont été, non pas découvertes, mais reconnues récemment, notamment par la mise en commun des expériences grâce à Internet. On a fait émerger des typologies de syndromes, dont ce PGAD en anglais, syndrome d'excitation génitale permanente, qui met certaines femmes au bord de l'orgasme de manière permanente. Oui. Et ça a été un grand mystère.
C'est-à-dire
qu'elles sont dans un état qui nécessite une stimulation et un orgasme pour se soulager. Et pendant longtemps, ça a fait rire, ça n'a pas été pris au sérieux. Et puis maintenant, c'est tout à fait reconnu comme une pathologie qui peut avoir plusieurs causes, qui doit donc avoir plusieurs thérapies différentes, mais qui est encore assez problématique à traiter.
Oui, il y a l'anorgasmie aussi.
Hein. Alors l'anorgasmie, ça c'est connu depuis très longtemps, mais ça reste un problème... insoluble pour les cas les plus réfractaires, c'est-à-dire que quand on a résolu les questions de méconnaissance et de manque de pratique et de tentatives, bon, après il reste des cas qui ne sont pas résolus, encore que
donc
ça peut
toujours arriver.
Donc c'est l'impossibilité
d'accéder à l'orgasme. Hein.
C'est l'impossibilité absolue. Alors bon, l'anorgasmie, ça a plusieurs formes. Hein. Il y a celles qui n'ont jamais eu d'orgasme du tout. Il y en a qui l'ont connu puis qui l'ont perdu. Il y en a qui n'ont accès que dans une situation solitaire et pas en couple. Donc il y a plusieurs formes.
Mais il paraît que c'est le premier motif de consultation chez les sexologues.
C'est les troubles du désir plutôt, je crois, parce que le trouble du désir était quand même très très fréquent. Les deux désirs. Je crois que les troubles du désir, ça doit être 30%, je crois, et l'anorgasmie, c'est 7 à 8%.
Hein. Mais... qui reste intraitable. Oui, mais voilà. les consultations pour difficulté d'arriver à l'orgasme, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, oui.
Allez, on écoute l'extrait d'un film qui s'appelle Master of Sex.
Je crois que nous ferions mieux de passer à l'étude en elle-même. Ce que nous allons faire, c'est collecter les données physiologiques d'un panel qui est le plus large possible. Ensuite, nous établirons des statistiques relatives aux réactions de l'organisme pendant l'acte sexuel.
Et qu'est-ce que c'est que ce truc ?
C'est un dispositif d'autostimulation.
Alors, quoi ? Vous me branchez à des fils et je me masturbe avec ça ?
Jusqu'à l'orgasme, c'est exact.
Ulysse n'est qu'un gros vibromasseur. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser.
En temps normal, comment faites-vous pour prendre du plaisir ?
J'avale une aspirine et je regarde le journal télévisé.
Voilà, c'est la série américaine Master of Sex. Odile Buisson, c'est ce qu'on fait dans votre laboratoire ou pas,
non,
ce type d'expérience?
Non, moi je ne fais pas d'expérience de ce genre.
Ouais. Est-ce que vous avez un avis sur l'utilisation des sex toys dans la recherche sur l'orgasme, demande Benoît sur le site de l'émission?
Je trouve bien, si c'est pour savoir quelles sont ces zones privilégiées pour accéder à tel ou tel type d'orgasme, mais après il va falloir le faire à deux, l'amour. Et là ça sera plus difficile, parce que quand on est toute seule avec un sex toy, c'est exactement comment se faire plaisir. Mm-hmm. Mais il ne faut pas non plus, si on est toute seule ou si on n'a pas de petite amie, ça peut servir, bien sûr. Mais c'est utile pour avoir une meilleure connaissance de soi, mais il faudra passer ensuite à faire l'amour avec un autre, quoi.
Avec un partenaire. Ouais,
avec un partenaire.
Mais ça n'exclut pas le sextoy, qui peut être un jouet
Commun aussi.
Commun, et qui peut... élargir le répertoire.
Pimenter le répertoire, ouais. Bien sûr.
Comment expliquer, demande Thierry, que certaines femmes ne soient pas clitoridiennes? Est-ce une mauvaise connaissance de leur corps ou la rencontre d'un mauvais compagnon?
Je ne sais pas expliquer ça. Comment expliquer?
Face à ce qu'on vient de dire, une femme est toujours clitoridienne, même quand elle est vaginale. Je veux dire, c'est le clitoris interne, voilà. qui participe à la sensation.
L'orgasme clitoridien, c'est l'orgasme obtenu par stimulation du clitoris externe. Et l'orgasme vaginal, c'est l'orgasme obtenu par pénétration sans stimulation concomitante. Après, les femmes sont diverses et variées. Les histoires sont différentes, les ressentis sont différents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une sexualité évolue et qu'il faut continuer à la pratiquer.
Beaucoup d'hommes également nous écrivent pour parler de l'orgasme masculin. Enfin, une petite incise. Émile, arrêtons aussi de limiter l'orgasme masculin à l'éjaculation. Arnaud nous dit entendre que chez l'homme, l'orgasme est automatique. C'est ça qui est dépassé. C'est une idée qu'il faut absolument abolir. C'est absolument faux. Et entendre ça est révoltant.
Alors moi, je suis gynéco de formation. Je connais un peu moins les messieurs. Mais c'est vrai qu'il a raison d'être révolté. Parce que souvent, les urologues le disent, il faut dissocier éjaculation de l'orgasme. Mmh. Et il y a des pratiques tantriques dont... comment Elisa parle dans son livre, sont là pour le démontrer. Certains arrivent à obtenir un orgasme sans éjaculer. Ils arrivent à contrôler leur plaisir.
Mais je pense que la levée du tabou sur l'orgasme féminin permettra justement d'étudier de plus près l'orgasme masculin qui a été trop rapidement pris pour automatique, en effet.
Des tabous et plus de médecine sexuelle féminine pour la France.
Ben oui, ça c'est certain. C'est ce qu'il faut souhaiter pour la France, parce que c'est quand même... triste de voir qu'il n'y a pas un seul laboratoire de médecine sexuelle multidisciplinaire en France. Je vois les Belges, Elisa en est le témoin principal, les Espagnols, les Allemands, les Anglais, les Américains, tout le monde est très très actif. Nous, on est un petit peu passéiste et on n'a pas beaucoup de publications.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Elisa Brune s'appelle Labo Sexo, bonne nouvelle du plaisir féminin, et c'est publié chez Odile Jacob, qui a peur du point G, toujours disponible également, Odile Buisson.
Je le crois.
Allez, c'est sorti en 2011, on devrait pouvoir le trouver sur Internet. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Bonjour Fabrice Drouel.
Oui, bonjour, attendez, je prends des notes.
Oui, ça j'imagine, vous pourrez même réécouter l'émission en podcast, je sais que ça vous intéresse.
Bon, écoutez.
Le sujet d'affaires sensibles dans un instant.
C'est moins drôle, ce sont les émeutes de Los Angeles en 1992, mais c'est intéressant parce que c'est une peinture de l'Amérique également, et nous recevrons un grand spécialiste historien de l'Amérique, Papendiaï.
À tout à l'heure.